22 juin 1998, cours de Raveman Shir Hashirim au centre du Frénois.
Ça, Metsaouni Hashomrim, Asurim Bayir, Ikuni Petsaouni, Nasu et Rudidim et Alaï Chambre Achomat. C'est bien ça?
Oui.
Alors, ouais, c'est très bien. Metsaouni Hashomrim, Asurim Bayir. Metsaouni m'ont trouvé Hashomrim, les gardiens. Assovevim Bahir, ceux qui tournent dans la vie. Ikuni, ils m'ont frappé, Petsauni. Ils m'ont blessé, Nasu et Redidi Mealai. Ils ont enlevé ma parure. Ils m'ont enlevé ma parure, Chambre Achomot. Les gardiens Achomot. Choma, ça veut dire la muraille.
La muraille.
Rashi dit Metsauni Hashomrim Nevuchad Netzar Vechayalotav. Il s'agit de Nabucodonosor et de ses armées. Asovevim Bahir qui tourne en ville, Limkom Nikmato Shel Makom. Pour pouvoir, dit Rashi, arracher l'endroit. Nasu et Redidi, on a enlevé ma parure, c'est le Beit Hamikdash. Chambre à Chomot, Af Malach et Acharet, Chayou Chambrim Chomotea, même les Malach et Acharet, qui étaient eux les gardiens, eux-mêmes, Emit Situbo et Aour, Keïdan Chenemar, Mimarom Shalachesh. C'est eux qui ont allumé le feu, comme il est dit, c'est d'en haut, Shalachesh, Kakarosh Bokou a envoyé le feu. C'est marqué dans Rashi. On a déjà dit souvent que Nabucodonosor, dans le verset, il s'appelle Avdi. C'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu qui a détruit le Beit Hamikdash. C'est ça le pshat, Shalach Esh Mimarom. C'est-à-dire que il n'a fait qu'entériner la décision divine. C'est intéressant. Que ici, on a vu dans le passage d'avant, Nafiatsa Vodabro, Bikashtiu, Velo Metsatiu, Kerati, Velo Anami. On parle d'un moment où la tchouva ne marche pas. Puisqu'on voit que Bikashtiu, Velo Metsatiu, Kerati, Velo Anami. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Kerati, je l'ai cherché, Velo Anami. Si vous vous reportez au chapitre 3, au verset 3. Vous voyez que là-bas, on parle d'une façon différente. Là-bas, Akumana vasova bahir vashvakim vachovot avaksha et shava nafshi vikashti v'lo metzati. Metzaouni hachamon asovim bahir et shava nafshi v'item. M'ont trouvé les gardiens de la ville et shava nafshi v'item. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez trouvé celui que j'ai? Presque je les aurais dépassés, heureusement que je les ai rencontrés, jusqu'à ce que j'ai trouvé Tchava Nafshi. Rashi dit là-bas c'est Moshe Baharon, et c'est eux qui ont fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël, c'est la construction du temps. Et en vérité, il y a les deux expressions qui sont les mêmes. Ici est marqué aussi Bikashti velo metsatiu metsauni hashomrim asorim bahir. Tout d'un coup le shomrim c'est plus Moshe Aaron, c'est Nebuchadnezzar v'chayalav. on parle de Nabucodonosor et de ses armées. Donc une fois on parle de l'époque de l'entrée en Eretz Israël, et une fois on parle de l'époque de la destruction du second temps et du premier temps. Donc on va essayer de comprendre. Vous savez que la tchouva est toujours possible. On va essayer de comprendre pourquoi quelquefois il n'y a pas de tchouva. Pourquoi quelquefois la tchouva n'est pas acceptée. Et pourquoi quelquefois ça marche. Parce que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la tchouva a marché. On a rencontré Moshe et Aaron. Lorsque il s'agit de la destruction du temple, les Shomrim, c'est Nebuchadnezzar. Donc on a dit qu'une fois, Moshe et Aaron, ce sont les Shomrim, ce sont ceux qui gardent en rapport avec leur propre mitzvot, alors que Nabucodonosor, c'est celui qui garde sans le savoir, mais qui en fait n'est qu'un gardien des Chomot. C'est seulement un gardien de la volonté divine, c'est pour ça qu'il y a marqué que même les malachim, les rachis, les anges, ça veut dire c'était la volonté divine, la destruction du peuple, la destruction du Beth Amidash, l'exil du peuple juif. Donc maintenant c'est à nous de nous demander quelles sont les caractéristiques qui font qu'une tchouva marche, une tchouva ne marche pas, ou qu'une fois il y a une tchouva, une fois il n'y a pas de tchouva. Puisque le verset emploie les mêmes mots, une fois Mikashtiou et Metsatiou, une fois Mikashtiou et l'homme Metsatiou. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans le traité d'Avodah Zara, qu'il y a deux fois où la tchouva ne marche pas. Deux fois où on ne peut pas faire tchouva. Ça veut dire, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir faire tchouva. La première fois, la Gemara dit Shane Minut. Minute, on va dire, le min, c'est celui qui pratiquait la Avodah Zara. Minute, c'est quelqu'un qui a des problèmes non pas avec son maasé seulement, mais même avec sa marchava, avec sa façon de voir. La plupart des gens ont des problèmes avec leur maasé. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des problèmes avec leur maasé? C'est que la vérité, ils la voient, seulement ça va être difficile d'y adhérer. Elle ne leur appartient pas. Elle les fuit. Mais ils la connaissent. En ça, il y a marqué chez Moïse et dit Ha'elokim bara et Adam yachar. L'homme a été créé yachar. Bon, il sait où aller. Seulement, ben bikshu chishbon notre rabbin, c'est l'humanité qui fait dévier les choses, parce que Chishbonot, en hébreu, c'est même le mot Chishbon, c'est du calcul. C'est-à-dire que l'homme se pervertit à cause des calculs qu'on l'oblige à calculer. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Pourquoi est-ce que l'homme se pervertit ou non? En tout cas, on peut croire que, quelque part, Elohim bara et Adam yachar, l'homme était créé yachar. Maintenant, si ça n'est pas le maasé qui est difficile, ça veut dire que c'est pas que tu as l'homme qui voit les choses et qui a des difficultés avec ton maasé, mais que tu as même des difficultés avec ta marchava. Ça veut dire que tu n'arrives plus à voir les choses claires. Alors là, tu sais, la Gemara dit Shane et Minut. Minut, c'est différent. Le mine ne peut pas faire tchouva. Parce que la tchouva, c'est la tchouva du min. C'est pas la tchouva du juif. On va essayer d'expliquer. Un juif peut faire tchouva. Celui qui n'a plus les critères de pensée du juif, il fait la tchouva en tant que min. Vous comprenez? Si on a perverti l'esprit, alors, on a un problème avec la tchouva. Deuxième chose, la Gemara, on doit aussi comprendre ça. Avik Bechet. Alors, il dit celui qui est avik bechet, c'est comme un mine. Avik, même si là, c'est quelqu'un qu'il a tellement répété le chet, il a tellement répété la faute, qu'elle est devenue naturelle. On voit que c'est aussi une sorte de mine. C'est aussi une sorte de perversion de la pensée que de pervertir ses actes de la même façon tout le temps. Ça, ce sont les deux cas dont parle Agmara. Maintenant, il faut essayer d'être clair, on va poser la question que tout le monde connaît. Le Rav Dessler, il pose la question dans le Mirta Meliaou, dans le premier Chélek. Il dit, il y a marqué partout qu'on ne peut pas avoir de tchouva sans siata d'Ishmaïa, sans d'aide du ciel. Et pourtant, c'est ça toute la bukhira, c'est ça le choix. C'est qu'il faut que tu t'en sors tout seul. Si chaque fois le monde te donne un coup de pouce, alors on va dire, tu n'as toujours pas fait tchouva, c'est le bon Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut parler de siata d'Ishmaïa en parlant de tchouva? Ça, c'est la question fondamentale. Avant de répondre à cette question, on va essayer de comprendre autre chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que dans les Sfarim, on parle de Olamot. Il y a des mondes, il y a un monde, nous on vit dans le Olam Asiya. Au-dessus, il y a le monde de Yetzira. Comment vous appelez ça?
Formation.
Formation, si on veut. Au-dessus, il y a le monde de Bria.
Création.
Création. Ça ne nous engage pas parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc c'est pas vraiment grave.
Non, en français, c'est difficile. Il n'y a pas d'autre mot qui correspond encore en français.
Non, non, mais je suis d'accord. D'abord, on doit comprendre ce que ça veut dire des mondes. On vit dans le monde. Il y a des mondes différents. Alors il faut savoir ceci. Il faut bien retenir cette parenthèse. On va commencer comme ça. Les repères extérieurs. Ne peut venir qu'avec l'intermédiaire de ce qu'on appelle le chouche. Le chouche, c'est les sens. J'ai besoin de mes sens pour percevoir l'extérieur. Sans la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, je ne sens rien. Ok. Mais qui c'est qui sent? On va dire moi. Quel est le sens qui me permet la perception du moi? On va recommencer la question.
La propriété d'un passé.
Attendez, 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 doucement, doucement. Oh. Il est trop fort, lui. Il est trop fort, lui. Alors, encore une fois. Moi, je perçois ce qui m'est extérieur par mes sens. D'accord. Mais il y a une perception de soi-même. Cette perception, par l'intermédiaire de quel sens est-elle perçue?
La mémoire.
Pas par l'intermédiaire
d'un sens.
Voilà. C'est la mémoire.
On n'a besoin d'aucun sens pour la percevoir. On va appeler ça le moi. C'est le repère. Qui c'est qui sent et qui ressent et qui perçoit? C'est moi. Tout ce que mes sens me transmettent, c'est à l'origine quelque chose qui est normalement objectif. Donc c'est pas perverti. J'ai pas de raison de dire que ce que j'entends, j'entends mal, je vois mal. Je vois, j'entends, c'est tout. Je n'ai pas besoin de remettre en cause ce qui m'arrive comme information de par mes sens. Mais ce qui est moi, et qui ne m'arrive pas par les sens, est-ce que je peux le remettre en cause? Est-ce que j'ai besoin de le remettre en cause? Comment ça marche? C'est là qu'intervient ce qu'on a dit à Elohim, Bara et à Adam Yachar. On est obligé de dire que celui qui perçoit les informations, il y a des informations qu'il n'a jamais perçues et qui lui appartiennent. C'est-à-dire que l'homme primitif, la première fois qu'on l'aurait tapé, c'est-à-dire Havel, la première fois qu'il s'est fait taper, il est sûr qu'il a pensé à l'injustice. Mais qui t'a parlé de justice et d'injustice? Ça, c'est le moi. Je n'ai pas besoin de perception de l'extérieur pour savoir qu'il y a des choses qui sont justes et injustes. C'est ce qu'on appelle à Elohim, Bara et à Adam, Yasha. On va aller un tout petit peu plus loin. Je n'ai pas besoin d'une perception de l'extérieur pour savoir que si j'aime pas qu'on me tape, l'autre non plus n'aime pas qu'on le tape, et que ce qui s'applique à moi, ça s'applique à l'autre. On est d'accord? Pour ça, j'ai pas besoin d'une intelligence excessive, d'une perception excessive, c'est ce qu'on appelle mon moi. Tout doucement dans ma vie, je vais commencer à diriger mes sens selon le moi. Il y a des gens qui n'entendent jamais. C'est pas qu'ils n'ont pas les sens pour entendre, ils peuvent très bien entendre, mais ils ont décidé de ne jamais entendre. Le pire, c'est qu'ils écoutent, parce que décider de ne jamais écouter, c'est trop fort à l'encontre du moi, à l'encontre du yachar. Ça, tu peux pas. Donc tu écoutes, mais tu as décidé une fois pour toutes de ne jamais rien entendre. Comme il y a des gens qui ont décidé de ne jamais rien voir, de ne pas regarder, c'est pas possible, mais de ne pas voir, oui. Il y a des gens, vous vous êtes assis dans le métro, vous faites agresser, le type qui est à côté, il n'a rien vu, il est incapable de témoigner, parce qu'il a décidé de ne pas voir. Il aurait pu décider de voir, il a décidé de ne pas voir. Il a décidé de ne pas entendre. Très bien. Ça veut dire que je peux pervertir, ou je peux changer la perception de mes sens. On va aller plus loin. Il y a marqué au Sinaï qu'ils ont vu les colottes. Les voix, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit les deux premiers commandements, le âme, le peuple a vu les colottes. C'est dur de voir des voix. Pour nous, c'est dur. Mais si ça ne marche pas avec la perception telle qu'on la connaît, il est possible que de même qu'on dirige sa perception comme on veut, et on forme sa perception comme on veut, et que dans la vie on décide de ne pas voir certaines choses, et d'autres personnes décident au contraire de voir certaines choses, le moi commence à se changer par rapport aux perceptions qu'on a bien voulu avoir et ne pas avoir. Et on pourrait comprendre que vers le milieu de la vie, on ne perçoit plus du tout les choses de la même façon. Il y a des choses que l'on peut percevoir. Pourquoi? Parce que ses sens sont tellement inutiles maintenant qu'il est près d'Akadosh Baruch Hu, qu'il peut même voir ce qui est écrit. Et l'entendre, et le sentir peut-être. Il n'est pas comme nous qui ont développé certains sens de cette façon, et pas d'une autre façon. On va aller plus loin. Il y a des nissim qui ont eu lieu pour certains, et d'autres qui étaient à côté, ils n'ont pas vu. parce qu'il y a une certaine perception qui est possible pour l'un, peut-être qu'elle n'est pas possible pour l'autre. Donc il est possible que je fasse un tri de ce que mes sens me rapportent par rapport à ce que j'ai éduqué, ce qu'on appelle le moi, en hébreu on appelle le anochi, et que chez des gens différents, ça ne correspond en rien du tout. Je parle quelque chose à quelqu'un, il ne comprend rien de ce que je dis. Je dis, mais tu ne vois pas, il ne voit pas. Même dans la mutuelle, même dans la réalité, c'est comme ça. Une des preuves qui est amenée dans les Sfarim, c'est que Yaakov Avinu Kaftsalo Aderech. Vous savez que, si on fait le compte, vous voyez que Yaakov, au moment où il est parti de Haran, jusqu'à ce qu'il arrive à Beersheba, en passant par Bethel, et en dormant sur le mont Moria, on s'en sort pas. Donc là, Shira Ben Midrash, Kaftsalo Aderech. C'est quoi Kaftsalo Aderech? Kaftsalo Aderech, ça veut dire que le chemin s'est raccourci. Mais les kilomètres, c'est des kilomètres. Qu'est-ce qu'il a fait celui qui l'a vu marcher là? Il a vu. Kaftsalo, il n'a rien vu. Mais pour lui, Kaftsalo Aderech. Il y a des fois où même l'autre peut voir, mais comme il est inadapté à cette vue, c'est lui qui va tout casser. Par exemple, les Égyptiens sont rentrés dans la mer Rouge alors qu'elle était ouverte, et pourtant elle était fermée. Sinon, ce serait pas noyé. C'est-à-dire que c'est possible que c'est lui qui ferme. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne peut pas être ouvert. Donc pour lui, ça a toujours été fermé. Il n'y a pas besoin que ça se ferme. Mais peut-être que c'était oui ouvert à un moment. Parce qu'il y a oui une perception, on ne sait pas. Pire que ça, il y a une question qui est très connue dans les Rishonim. Puisque à Givon, vous connaissez l'histoire de Givon? Shemesh be Givon, Dom, Yoshua, a fait arrêter le soleil. Comment ça se fait que dans les contes, vous savez que si on remonte au Molad, qu'est-ce que c'est le molad? Le molad, c'est le renouveau de la lune qui dure Khaf Tet Yom Yud Bet Shaot Khaf Tach Sag Chalakim Tav Shin Tzadeh Gimel Chalakim Alach Al Moshe Mitzinaï. Si vous faites l'addition de tous les moladot, vous retombez sur le molad qui est écrit dans la Gemara comme étant celui de la création du monde, et vous tombez juste. Alors on n'a pas tenu compte de Yoshua, non, on ne devrait pas tomber juste, puisqu'il y a eu un problème avec le soleil.
Il s'est arrêté.
Dans le Midrash, j'ai marqué que entre le moment où ils sont sortis d'Égypte, où ils sont arrivés au Sinaï aussi, une fois il s'est arrêté. On n'en tient pas compte dans le calendrier. Pourquoi? Parce que c'est une perception différente des choses. Il peut y avoir deux perceptions. Et l'une n'influe pas sur l'autre. Tu vas voir le soleil. Il y a quelque chose qui s'arrête de tourner là. Ça n'a pas d'incidence sur le calendrier. Parce que le calendrier, il est fonction de l'alakha. L'alakha, c'est notre base. Ce n'est pas la base de ce que tu vois, tu ne vois pas. On en peut arriver même à dire, comme ça c'est marqué dans les soirées, qu'il est possible que la perception des choses, elles soient personnelles. Il n'y ait rien d'objectif. On est d'accord? Ça veut dire que deux personnes peuvent vivre dans deux mondes. L'un peut venir dans un monde où il a protégé ce qu'on appelle son moi, et l'autre peut, et les Khushim, ce qu'il voit, ça n'a pas beaucoup d'influence sur lui. Par exemple, on dit au nom de Rav Simcha Zissel de Ken, le Chidush HaRashaz, on dit en son nom qu'il y a des Kushiot qui sont des Terutzim. Il y a des questions qui sont des réponses. Mais comme la personne se gêne de dire qu'elle a la réponse, elle préfère poser une question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même de poser la question, c'est parce que tu veux la réponse. Mais en vérité, celui qui s'en fiche de cette réponse-là, il n'a même pas la question. La plupart du temps dans la Emouna, quand quelqu'un a des problèmes d'Emouna, c'est-à-dire il n'arrive pas à trouver la façon dont Dieu dirige le monde, il n'arrive pas à le trouver juste, il n'arrive pas à le trouver intéressant, il n'arrive pas à y croire, c'est que c'est interroute, c'est pas une question. Parce que ça fait longtemps que les gens n'ont plus cette question-là. Ils ont dépassé. C'est les enfants qui demandent pourquoi le tzadik et le rachat, il faut évoluer depuis Moshe Rabbeinu. Chez le clan d'Israël, ça pose plus problème. C'est le contraire qui pose problème. C'est que celui qui me dirait, tu sais, moi j'arrête de faire la mitzvah parce que le monde n'est pas juste. On va lui dire qu'il ne pose plus problème aux autres. Pourquoi? Parce que sa question n'est pas une question, c'est une réponse. Et nous on n'a pas de question, donc on n'a pas besoin de sa réponse. Vous comprenez? Tout dépend si la question, elle est là pour la réponse, elle est là pour la question. Il y a des gens qui savent répondre, il y a des gens qui semblent ne pas questionner. Parce qu'ils ont compris que c'était un faux problème. Donc pourquoi est-ce que j'attendrai la réponse? Donc la réponse, elle est là pour mettre en question, pour déstabiliser. Mais elle n'est pas là pour poser la question. Chez les enfants, oui. Mais quelqu'un d'adulte a compris qu'il y a des choses où c'est bête de poser la question. Il y a des adultes qui perçoivent la Torah comme un espèce de mouvement naïf dans lequel on peut se fondre et dans lequel on est protégé. Alors celui-là aussi il aura des questions. Et je vous disais, toutes les mitzvot que j'ai fait, regardez ce qui m'arrive. C'est bête. C'est pas une question. Maintenant, attention. On peut pervertir son propre moi avec ce qu'on appelle le negiot. La negia, c'est de ne pas savoir se mettre au-dessus de soi-même. Parce que là, il y a un petit peu le paradoxe. Pour être soi, il faut être au-dessus de soi. Parce que si on est soi, on n'est jamais au-dessus de soi. Donc je dois savoir que, pas comme la plupart des gens pensent que la chiffre chez l'autre, ça lui fait pas mal, mais s'il me donne la même, ça me fera très mal. Ça lui fait exactement le même mal qu'à toi. On appelle ça la negia, c'est-à-dire de ne pas être au-dessus de soi-même. Lorsque quelqu'un ne sait pas être au-dessus de lui-même, son moi n'est pas protégé. Vous comprenez ? Il devient ce qu'on appelle en français un bof. C'est-à-dire que l'idéologie la plus basse et la plus primaire, c'est toujours celle qui prime. Tu m'as donné un coup, je t'en donne deux. C'est bête. C'est d'avoir fait fi de son moi. Va'elokim, Asa et Adam Yasha. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Tout le monde est d'accord. Tu commences à réfléchir comme ça, c'est parce que tu as des questions. Sans comme tu as des questions, tu fais la réponse. Il est possible qu'on ait tellement perverti le moi. Parce qu'on appelle la neugia. Que la tchouva, qui consiste à retrouver d'autres repères, elle est plus possible parce que le moi lui-même n'a plus la force de trouver les autres repères. Il est perverti. C'est ça ce que la Gemara a dit. Lorsque quelqu'un a fait une avéra et qu'il est avik bechet, il est attaché. C'est pas possible. parce que ça fait partie de lui. Et là, il aura des questions et des réponses. Là, il n'y a pas lieu d'avoir ni questions ni réponses. Et là, tu vois, il devient impossible. Pourquoi on parle de Siyata Dishmaya, d'aide de Dieu dans la Tchouva, à cause du fameux verset Hashivenu Hashem Elecha Ben Hashuva, c'est toi qui dois nous aider. Parce que lorsque quelque chose est perverti, il n'y a aucune raison, puisque c'est le moteur qui est perverti, qu'on puisse un jour le remettre. Mais la volonté qu'on a de changer, c'est celle qui nous permet de recommencer comme si le moi n'était pas perverti. On appelle ça Siyata Dishmaya. Ça que la Gemara a dit, Pitrouli que Pitro Shel Machat, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, Veftar Lachem que Pitro Shel Oulam. Moi, je ferai ça de grand. Pourquoi? Parce qu'il faut bien commencer, et ce qui est tordu, comment est-ce que ça va se retordre? Impossible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Siyata Dishmaya. Donc non seulement ça ne va pas à l'encontre de la brira du choix, mais j'en ai besoin pour pouvoir exercer ma brira, parce qu'à un moment on va me dire, mais t'as le choix, c'est pas vrai, j'ai plus le choix, parce que je pense comme celui qui a fait la vera. Et bien que je veuille penser comme le Baal Tchouva, mais je peux pas. Parce que je suis avec les caractéristiques, on va dire les critères de pensée ont changé. Je suis plus Hachar. Vous comprenez? Ça veut dire que le Olam Ayetzira, le monde de
la formation.
La formation. Ce Olam Ayetzira, c'est qu'on peut vivre avec son moi sans aucune perception. On peut vivre. Et la perception n'est pas du tout la même. Le Mashiach est marqué Ve'aricho Be'irat Hashem. Il sentira le fauteur. Avec son sens qui est l'odorat. C'est-à-dire qu'il odora, l'aura l'odorat tellement développé que le fauteur se mettra devant lui et lui dira, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison. Va'arichu b'yirat Hashem. Ça veut dire qu'on peut aiguiser sa perception et on peut casser sa perception. On va aller plus loin encore un petit peu. Quelqu'un peut vivre dans le Olam Hayetzira en ne tenant aucun compte du Olam Ha'Asiya. Par exemple, il y a des gens qui vous disent qu'il y a des juifs qui étaient en camp de concentration et même le dernier jour où ils savaient qu'ils allaient dans les chambres à gaz, il se levait plutôt pour mettre les tilim. J'ai dit, Ishmoz, Nechama, Shepicha, Madavia. Ça ne marche pas. Tu es à l'encontre de toute la perception. Tu ne vis pas dans le Olam Ha'Asiya. Dans le Olam Ha'Asiya, il n'y a pas de place pour des gens comme toi. Quelqu'un peut vivre dans le Olam Ha'Asiya. Il n'est pas obligé de vivre dans le Olam Ha'Asiya. Pas obligé de vivre comme ça. Avraham Avinu, il a vu des anges. Et non seulement il a vu des anges, mais il les a vu manger. Il pouvait les toucher. Ce n'était pas une illusion. Mais c'était son monde à lui. Et vivant dans son Olam à Yetzira. Dans l'Olam à Asiya, il n'y avait pas d'ange du tout. Pire que ça. On a déjà expliqué une fois que la Gemara dans le traité de Tanit, il y a marqué que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara demande, Birdi, est-ce que c'est pour rien, Khantou, Khantaya, Kavu, Kavraya, Sadou, Sabdaya? On l'a enterré, on a fait le Esped, et on l'a embaumé. Et la Torah elle-même, elle le dit. La Gemara dit, Omar, Abiyachanan, Mikrani, Doresh. Il y a deux mondes différents. Il y a l'Olam à Asiya, et il y a l'Olam à Yetzira. Dans l'Olam à Asiya, Yaakov Avinu, ben, il a bien fallu l'enterrer, c'est Mitzvah, il faut enterrer ses parents. Mais en vérité, on n'est pas obligé de vivre dans ce monde-là. On peut vivre avec la dracha du pasouk, mikra ni doresh. Moi, je ne me nourris pas de ce que je vois. Je me nourris du pasouk, le pasouk, il n'en a rien à faire de la perception des choses. Si tu veux bien regarder, tu verras que Yaakov Avinu n'est pas mort. Il y a marqué dans les Sfarim que Yaakov Avinu n'est pas mort, ça veut dire qu'à chaque instant, il peut être mitlabesh begoufo, il peut s'habiller avec son gouf, et il sera vivant comme tous les vivants. Ça dépend de sa volonté. Comme nous on vit exclusivement dans le Olama Asya, dans notre monde de la perception, eh bien on ne comprend pas comment un mort peut vivre aussi dans ce même monde. Mais en vérité, avec son moi, on peut vivre sans aucune perception. Donc en vérité, il n'y a place pour les morts. Ça qu'Agmara raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, il venait tous les Erev Shabbat, il faisait le Kiddush. Il y a même une chia dans les proskim. Comment il pourrait rendre Yotse sa famille? La plupart de ceux qui répondent, ils disent que comme il avait son gouf, il était donc vivant, alors il est mokhoyab de mitzvot aussi. Très difficile à comprendre. C'est-à-dire que les mitzvot, ça fait partie du gouf. Attention. Ce qu'il voudrait dire, tu l'as vu, Rabbi? C'est possible que tout le monde ne pouvait pas le voir. Ou alors c'est possible que tout le monde pouvait le voir. Ça, j'en sais rien. Mais quand il peut être mort et là, c'est pas très grave. C'est ça ce qu'on appelle vivre dans le Olam Ayetzira. Je ne suis plus obligé d'avoir un rapport avec le Olam Ayetzira. C'est seulement comme ça qu'on explique que l'un voit quelque chose et l'autre il ne voit pas. C'est un S, mais pourquoi j'ai pas vu? Ça a changé ou ça n'a pas changé? Avec la perception, on se débrouille. La perception, c'est pas grave. On peut la perdre comme on peut en gagner une autre. C'est avec le anokhi, avec le moi que c'est grave. C'est que quand on l'a perverti, alors à ce moment-là, on commence à raisonner. On va donner un exemple. Je suis quelqu'un, je lui dis, tu sais, tu devrais faire tu vois. Il me dit, mais c'est toi. Qui te dit t'as raison? Comment voulez-vous que je m'en sorte? Il a raison. Mitsido, peut-être c'est moi qui dois faire tu vois. Il vit bien. Très bien. C'est moi qui me dit, je vais vraiment faire tu vois. Attends, je comprends plus. Tu vois de quoi? Comprenez? Il y a un moment où même si on se dit qu'on va faire tu vois, c'est parce que c'est marqué dans les livres, on va faire tu vois. Mais on ne fait pas tu vois, c'est pas vrai. Parce qu'on s'est habitué à vivre sur une certaine perception qu'on n'a pas changé. Et alors c'est plus possible. C'est parce qu'elle m'a dit, la tchouva n'est pas toujours possible. Elle n'est pas toujours possible. Ah, même avec toutes les siatalishmaïa, la siatalishmaïa, ce que dit que Akash Bokhu va nous aider, c'est seulement de pouvoir mettre à notre disposition la façon qu'on a de voir clairement. Mais quelquefois, si on est avec Brett, personne ne peut vous mettre à sa disposition. C'est plus dans ses critères. C'est plus dans ses critères. Et mais il en est obligé d'en arriver. Ce qu'il explique à Benou Yona, il explique, il dit, il y a l'histoire de Rabbi Lézer ben Dourdaya. Que Rabbi Lézer ben Dourdaya, il a fait tchouva, mais il en est mort. Alors, Tishmo, il y a une question. Rabbi Chaim de Volozhin, il a posé cette question, elle est celle-ci. Épicouar Nefesh, ça repousse toute la Torah. Ça repousse toute la Torah. Ça repousse la Mitzvah Tshuva aussi. Alors, dans quoi ça repousse? Alors, je vous dis. La Mitzvah de Tshuva, c'est vrai que c'est une Mitzvah classique, comme toutes les Mitzvot. C'est pas parmi les trois Mitzvot de la Torah, Avodah Zara, Gilui Arayot, Sfikhout Damim. Non. Et pourtant, même Pikuach Nefesh, même la vie, le fait de vouloir vivre ou de pouvoir vivre, en tout cas de ne pas mourir, ça ne va pas repousser cette mitzvah. Alors que je pourrais dire une seconde, je transgresse le Shabbat pour vivre. Je ne vais quand même pas me laisser mourir pour faire tchoua. La réponse, elle est celle-ci. C'est que si je disais que pour pouvoir continuer à vivre, je repousse la mitzvah de tchouva. Ça voudrait dire que la vie sans tchouva, elle vaut quelque chose qui puisse repousser toutes les autres mitzvot. Et ça, c'est faux. Parce que quelquefois, quelque part, la vie, sa grandeur, c'est pas seulement parce que c'est la vie. C'est parce que ça te donne l'occasion de faire d'autres mitzvot. Mais c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma. Il y a différents limoudim. D'où est-ce qu'on sait que le pikuach nefesh, le danger de mort, repousse toutes les mitzvot. Et un des limoudim, c'est Ed Shabtotai Tishmoru. Il y a marqué Mes Shabbatot au pluriel. Chalel Shabbat Echad, que de le Kayem Shabbatot Arbe. C'est bête de mourir pour un Shabbat, alors que si tu avais redressé celui-là, tu aurais encore fait 50 Shabbatot. C'est ça qui est marqué Shabtotai. Regarde le nombre de Shabbatot, regarde pas celui-là. Si on dit qu'il existe cette prina, qu'il existe cette svara, dans toute tchouva, c'est comme ça qu'il a l'air de dire à Ben Yonah. Parce que lui, il répond à cette question-là. Il dit bien que quelqu'un doive mourir quelquefois parce qu'il ne pourra jamais faire tchouva tant qu'il vit. Ça vaut la peine. Ah, mais la mitzvah de tchouva ne compte pas être repoussé par le picor des fèches. Si. Ici, c'est différent. Parce que sans tchouva, tu n'as plus d'avenir. Tu n'as plus d'avenir. Puis qu'en effet, c'est un avenir qui repousse. C'est ton avenir qui fait que maintenant, on transgresse. Parce qu'il doit vivre celui-là. Celui qui n'a pas fait tchouva, on considère qu'il n'a plus de vie. Ça, c'est une façon de comprendre. Comme ça, c'est marqué dans la Bénéa sur les Pirkei Avot. Il y a d'autres façons de comprendre. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des fois où non seulement on ne peut pas faire tchouva, mais pour casser cette perception qu'on a élaborée soi-même, on est obligé d'aller jusqu'à la mort parce que la mort, elle casse tout. Kilo Irani Adam Vachai. Au moment où quelqu'un meurt, à ce moment-là, il a la perception exemplaire. Là, il peut faire tchouva. C'est pour ça que c'est marqué dans les Sfarim que Yom Amita Mechaper, lorsqu'il est marqué dans la Lacha, que c'est le jour de la mita de la mort qui est l'akapara, c'est le fait que le jour de la mort, on fait tchouva. Pourquoi ? Parce que il y a un moment où on n'est peut-être pas encore mort, parce que la question est si tu es déjà mort, il n'y a plus de tchouva. Alors je veux dire à Botani, il faut savoir qu'il y a beaucoup de morts qui n'arrivent pas à faire tchouva. C'est ce qu'on appelle le Géinam. Ça veut dire que la Gemara pense qu'on peut mourir et ne pas encore faire tchouva. Parce qu'on a tellement perdu les critères qu'on ne peut même pas voir. C'est ça ce qu'on appelle le Géinam. C'est-à-dire que la personne est enfermée dans ses propres critères. Elle est morte depuis 24 heures et elle commence à hurler, c'est quand qu'on mange. Mais on ne peut pas manger. C'est le plus grand issue. Je suis tout seul, personne qui me parle. Et il crie, il hurle. Parce qu'il n'y a pas besoin de gouffre pour crier et hurler. Nous, on croit que pour être inquiet et pour demander et pour se sentir seul, on a besoin de notre corps. Mais il faut croire que non. Même sans ça, on appelle ça le Roshem dans l'Anshava. Même sans ça, on est fichu. Donc ça veut dire que lorsque le texte y parle ici, Karati Velo Anani, ça peut être à cause de deux choses. Ou parce que le Karati, il est faux, c'est tellement perverti que ça ne veut rien dire. Ou parce que peut-être le Karati, il est juste, mais il n'y a plus de ressort. Velo Anani, on est obligé de sanctionner maintenant. Et la sanction, c'est ce qui permet aux critères de changer de tout au tout. On va changer de mode de vie. Et c'est vrai que ça change tout à fait. Vous prenez quelqu'un qui était riche, actif, aimé, et vous le mettez captif, vous allez voir que ses critères vont changer. D'une façon que lui ne pouvait pas changer lui-même. Ses perceptions, elles changent de tout au tout. Ce qu'il ne pouvait plus percevoir, il va le percevoir de façon tout à fait naturelle. Et il va se reconstruire ce qu'on a appelé le moi. Et à partir où il se reconstruit, la tchouva devient possible. C'est-à-dire que le paradoxe est que la siyata d'Ishmaïa, c'est le onesh, c'est la punition. C'est la punition, c'est ça ce qui est marqué ici. On est obligé de passer par des stades où on ne se reconnaît plus pour pouvoir continuer à vivre. Parce que sinon, on devrait mourir pour pouvoir faire tchouva. Et pire que ça, il est possible que même avec la mort, on n'aurait pas fait tchouva. On a encore besoin après le Gaïna pour faire tchouva. Donc maintenant, on veut essayer de comprendre tout doucement ce qui est marqué ici. Bikashtiu velo metsatiu. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé ? Kurati velo anani. Metsauni ashamri masorim ber ikuni tsauni nasu etre dime alai. On est obligé, ikuni petsauni, on est obligé de me taper dessus. Petsauni et de m'infliger une blessure. Nasu etre dime alai. On enlève ma parure. À ça, la personne, elle devient autre. À partir du moment où on devient autre. Alors maintenant, on va juste ouvrir une petite parenthèse. Nasu et redidimé Allah, il m'a paru. Rashi dit, c'est le Beth Amikdash. C'est la parure du Klal Yisrael. C'est très difficile à comprendre. Parce que la parure, ça veut dire que ça reflète l'intérieur. Une parure, ça reflète qui est la personne. Tu dis, bon, on peut comprendre que lorsqu'on dit Nasu et redidimé Allah, c'est que lorsqu'on enlève le Beth Amikdash perceptible, c'est qu'il n'y a pas de Beth Amikdash à l'intérieur. Parce que vous savez bien que il y a marqué dans le verset « Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocha ». Rabbi Chaim Volozhiner dans le Nefesh HaChaim, il explique que chaque homme, il a son Mikdash intérieur. Et selon son Mikdash intérieur, existe un Mikdash extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire son Mikdash intérieur ? Il y a marqué dans l'Ibn Ezra sur le fait qu'il y a marqué Kouli Truma Kechol Asher Yidvenu Livo. D'un côté a marqué prendre et de l'autre côté a marqué Nadav donner. Devant l'Ibn Ezra, il faut donner ou il faut prendre ? Décidez-vous. Dit l'Ibn Ezra, donner si tu n'as pas pris quelque chose. C'est pas comme ça qu'on construit le Beth Amikdash à l'intérieur de soi. On construit le Beth Amikdash à l'intérieur de soi lorsqu'on a pris quelque chose de soi, pas lorsqu'on a donné simplement quelque chose de soi.
Ça veut dire quoi ?
Alors on va expliquer. Donner quelque chose, ça peut être un acquis pour lequel ni j'ai lutté, ni je suis obligé, moi, de faire fonctionner mes repères. Alors que prendre de soi, ça veut dire que j'ai été obligé de sacrifier quelque chose et de payer pour ma cause. Vous savez qu'il y a des gens qui sont membres des clubs, on peut même être membre du Klal Israël et payer toutes ses cotisations, mais on n'a rien donné de soi. On a payé. Ce qu'il dit les Ibn Ezra, prendre de soi, ça veut dire que il vous manque maintenant quelque chose. Mais s'il ne me manque rien, j'ai fait que donner ce que j'avais en trop. Et pourquoi je ne donnerai pas ? En plus, je vais le garder. Donc, que roux prendre, c'est-à-dire que quelqu'un il a sacrifié de ce qu'il avait à lui. Sacrifier de ce qu'il est à soi, c'est exactement la même notion de ce qu'on a expliqué que les neguiotes, ou les ta'avot, ou le désir, ou Nugia, on appelle ça, comment on appelle ça en français? Le fait de ne pas juger les choses à la même aune pour l'autre et pour moi, c'est-à-dire se protéger, c'est ça ce qui est le contraire de Kehu. Partialité. C'est le contraire du Kehu. C'est-à-dire que je sais donner, mais je ne sais pas prendre. Et il y a des gens qui savent tout à fait donner. Par exemple, l'autre a besoin de moi. Je vais lui donner tout ce que je peux. Avant, je vais lui dire, mais tu sais, toi, comme tu aimes telle et telle chose, il faut lui donner ça aussi. Je dirais, non, et non. Lui, il est pauvre, moi, je suis riche. C'est là où on donne, mais on ne sait pas prendre. L'autre a besoin de 100 francs. Alors, je vais lui dire, s'il a 100 francs, il est comme moi. On donne combien à pauvre? 50. Il n'a pas besoin d'être riche. Le principal, c'est qu'il ne soit pas pauvre. Si je lui donne 50, je n'ai rien pris de moi. Parce que si je lui donne 100 et que moi aussi j'ai 100, je suis plus riche. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qu'on appelle être nogéable d'avoir et être partial, c'est que tous les coups, on comprend très bien. Et on s'étonne pourquoi les autres n'arrivent pas à les encaisser. Mais quand ils vous arrivent, on trouve normal de ne pas pouvoir l'encaisser. C'est comme ça qu'on va mesurer. Donc ici, c'est exactement la même chose. Le moi, on a pu le pervertir, parce qu'on s'est habitué à certaines choses. Et on ne peut pas les mettre en cause, parce que ça voudrait dire de donner de soi. Ça, on n'est pas d'accord. On veut bien donner de plus, mais on ne veut pas prendre de soi. Parce que si on donne de soi ce qu'on a pris de soi, c'est ce qui débénisera. Prendre de soi, c'est ça qu'on sort le Beth Amidash intérieur. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu chez un rave et lui a dit, c'est bizarre, il y a marqué dans un prêtre originaire que il faut avoir un Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de soi. Il dit, moi, ça ne me pose pas de problème. Pensez à mon Dieu. Alors il a répondu, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, quand il est à l'intérieur de l'homme, il prend beaucoup de place. Et moi, je ne vois pas sur toi la place qu'il prend. Vous comprenez? C'est facile de dire qu'on fait la place à Kadosh Baruch Hu. Et on construit un Amidash. Mais il faut que les autres puissent voir la place que ça prend. Si on n'arrive pas à voir la place, c'est que tu n'as rien donné. Ah, tu penses à chaque instant. C'est un luxe que beaucoup de gens peuvent se permettre aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il s'est donné pour ça. Il y a des choses que des gens peuvent ne pas voir. Parce qu'ils ne vivent plus du tout dans le Olam HaMaaseh de cette façon. Par exemple, le Baal Shem Tov dit que les tzadikim, ils ne voient plus le mal. Ils sont obligés de développer un système intellectuel pour le voir. Alors que les autres, ils voient ça tout de suite. Pourquoi? Parce que l'autre est tellement bien branché qu'il connaît le truc. Mais lui, ça lui est tellement interrogé. Pour le tzadik, c'est tellement étranger que c'est son intellect qui est obligé d'être développé pour ça. Mais de ses sens, il ne remonte plus rien. Dans un sens, c'est ce qu'Agmar a dit, Kola possède, Bemoumo possède. Tout celui qui rend l'autre pas saoul, parce qu'il dit que tu as un défaut, tu as un moum, tu as quelque chose qui ne passe pas. Comment tu arrives à le percevoir? C'est parce que tu connais ça. Vous comprenez? Il y a un moment où il est possible qu'on ne comprenne plus le monde de la même façon. C'est ça la madriga de Adam Harishon avant le Chet, et c'est ça la madriga du Klal Israël au moment du Har Sinaï. C'est que la perception du monde, elle n'est pas la même. Il en est de même sur le tzadik, que la perception du monde, elle n'est pas la même. Il voit les choses autrement. On raconte maintenant d'un Rav Rimbisk qui lui disait que son père, Ebrahim, il pouvait calculer les choses sur 60 ans quand on lui demandait une etza pour le Kalisa. Ça veut dire qu'il voyait 60 ans en avance. Qu'est-ce qui allait se passer? Il disait, il faut le faire, ça ne peut pas le faire. Et il dit, moi je ne vois plus qu'aujourd'hui. Mais ceux qui viendront après moi, ils n'ont même pas compris ce qui s'est passé hier. Ça veut dire qu'il y a une perception qu'on peut faire nerf parce qu'on est yachar et qu'on ne s'est pas perverti. Je vais donner un exemple qui est marqué. Il y a un sefer sur la paracha, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Les cartes, je crois. Il raconte une histoire qui est connue, qui arriva en Eretz Israël en 1905. En 1905, au milieu d'une nuit à Yerushalayim, est arrivé un télégramme qui était signé par le rabbin de la communauté de Novominsk, en Russie. Et il avait écrit ceci, qu'il y a deux juifs qui ont fui à Yerushalayim et qui ont porté un faux témoignage devant le tribunal de Novominsk. Et s'ils n'avouent pas tout de suite devant le consul russe en Eretz Israël, c'est turc, à Yerushalayim, leur forfait, il y aura un pogrom énorme qui va être perpétré contre la communauté juive de Novominsk. Donc on demande à un rabbin qui s'appelle Rav Alisher, qui est un rabbin séfarade, Rishon Tzion, de prendre tout de suite les mesures pour que ces deux juifs se retractent devant un agent consulaire. Alors quand les gens ils ont vu ça, ils ont fait tout de suite une grande ACFA, une grande réunion, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. On a interrogé les gens. Les deux sont venus, ils ont dit, pas, c'est pas vrai. On n'a jamais porté le faux témoignage. Et c'est le contraire. Si maintenant on se rétracte, c'est là qu'il y aura des problèmes. Alors, ça va aller cher. Il a dit, le télégramme est un faux. Il ne faut pas répondre. Il faut faire comme ça, pas le. Ils ont dit, ça c'est déjà une grande responsabilité. Alors il a dit, allez demander à Rav Shmuel Salant. Rav Shmuel Salant, c'était le rabbin des Ashkenazi. On lui a mis le télégramme, il a lu, il a regardé, il a dit, il est faux. Faites comme si vous n'avez pas reçu. Et après, ils ont reçu un journal qui a été expédié de Novominsk en disant que il y avait un avocat des accusés qui avait dit qu'il attendait de Jérusalem et qu'on avait dit que des témoins allaient se retracter et que comme il avait attendu et que ça n'était pas venu, ça n'avait pas été retenu par la défense et que Baruch HaShem, on avait confirmé le témoignage de ces deux juifs et grâce à ça, il n'y a pas eu de problème dans la ville de Novominsk. Comment on fait? On fait une réunion. Chacun a pris au sérieux le problème, il demande est-ce que c'est mieux de faire comme ça, de faire comme ça. Quand il vient, il dit c'est un faux. Si vous allez dire que c'est la prophétie, alors on va retomber sur le même problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens voient et les autres ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que ce qui est faux, on le voit quelque part. Mais il faut le voir. Comme on a déjà raconté que Rabbi Sozal le Meltzer, un jour on a voulu lui donner à boire, il a dit ne donnez pas de ce verre parce qu'on n'a pas fait la Tfilat Kelim. On a dit mais comment tu sais qu'on n'a pas fait la Tfilat Kelim? Il dit quand vous n'arrivez pas à voir vous qu'on n'a pas fait la Tfilat Kelim. Il se voit, c'est facile. Puisqu'un juif doit toujours avoir devant lui les quatre lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Et ça doit toujours être marqué Shiviti, Hachem, le Negdi Tamid. Il faut toujours avoir ces quatre lettres devant soi. Lorsque ces quatre lettres, elles viennent automatiquement se mettre sur les ustensiles, c'est qu'il y a eu la tuila. Ça n'arrive pas à tout le monde. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'on n'a pas les quatre lettres devant là. Mais si on les avait tout le temps, hein, peut-être que ça arriverait. Peut-être parce qu'on serait plus tout le monde. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que, même en parlant de Shuvah, on doit pouvoir garder les kelim. On doit pouvoir garder la possibilité de faire Shuvah. Si on n'a pas la possibilité de faire Shuvah, ça ne sert plus à rien. Et c'est ça le sens du Chorban Beit HaMikdash. Il faut une cassure pour que on puisse recommencer à percevoir les choses, pas automatiquement selon le Lama Asiya, où tu as une justification, on comprend tout, on voit tout, mais selon le Lama Yetzira, où les choses peuvent avoir une autre signification. Et s'il y a une autre signification, alors peut-être on arrive à prendre du recul, et c'est ça ce qu'on appelle la Tchoua. Il y a des cas où ça n'est plus possible. En tant qu'être vivant, c'est pas possible parce qu'on est avig bechet. C'est rentrer trop dans les catégories. Ou alors, parce qu'on pense faux. Si on pense faux, on ne peut pas avoir cette démarche de Tchoua qui nous dit juste comment faire pour penser juste. Malheureusement, souvent les gens pensent faux et on les change de situation. Ils remettent en cause leur pensée. À ce moment-là, ils peuvent commencer à penser juste. J'ai une autre question. Le cachat, il est où ça ? Ouais.
Le Rambam, il dit, je crois, que tout le monde doit, enfin, quand il parle de la Tchouva, tout le monde doit se considérer comme Benoni. On ne doit pas se considérer ni comme Sadik, ni comme Racha. Donc, est-ce qu'il s'adresse aussi aux...
Ça, c'est lorsqu'on ne parle pas de faute particulière. Lorsqu'il s'agit de faire Tchouva, stop. Lorsque quelqu'un a fait une faute particulière, il n'a pas besoin de se considérer ni comme ça ni comme ça. C'est bien comme il est.
Mais par rapport aux personnes dont vous avez dit que la situation est pratiquement irréversible, je dirais,
ça c'est quelqu'un. Ça c'est quelqu'un. Ça c'est
quelqu'un. Non, bénomie,
non on parle de. Mais non. Parce que là on parle de quelqu'un qui a fait une Tchouva. Sûr, il connaît exactement la faute. Là, on parle de la Tchouva en général. On dit quelqu'un, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Tu es Benoni, tu es dit, ça dit, il achète, tu es Benoni.
Mais je crois qu'il dit aussi qu'il y a certaines personnes qui sont punies par Dieu, qui les empêchent de faire teshuva, qui les maintiennent dans leur...
Jamais. Le pire, c'est « Emma speaking biado », ça veut dire qu'on ne lui donne pas de certitude, on ne l'aide pas. Mais on n'empêche personne de faire teshuva.
On le maintient dans son attêtement.
On lui crée même des difficultés.
Voilà, on peut lui créer des difficultés pour faire teshuva. Mais de lui empêcher la teshuva, c'est la personne même qui s'empêche la teshuva.
C'est le cas de Paro. On lui crée des difficultés, c'est le cas de Paro. Ouais, et pourtant, il a été le seul à faire
teshuva. En plus, il a fait teshuva.
Il a été le seul à faire teshuva.
Normalement, ça n'existe pas qu'on empêche quelqu'un de faire teshuva. C'est lui-même qui s'empêche de faire teshuva. Il est marqué là-bas, Kav Dal Dvarga, 24 choses, c'est me akvim et ta teshuva, qui empêche la teshuva. Mais c'est les choses qui empêchent. Arrange les choses et tu peux en faire toujours.
Même
pour la chèvre. La on a besoin de chiamot. Ça, c'est une des choses où il y a besoin de mourir pour pouvoir que la tchouva, elle est une capara. Mais tu vois, on peut faire, même pour la chèvre. Au contraire, il est marqué la tchouva, c'est mourir, mais elle le capara à chiamot.
Parce que
capara et tchouva, c'est deux choses différentes.
Parce qu'en français, Rabbi, dans les conférences des gens qui écoutent, ça me fait penser à ça. Il y a souvent une confusion entre trois dimensions, la tchouva, la capara et le tikkun. Et ces trois dimensions.
On parle de la tchouva, on ne parle pas de la capara. Capara, ça veut dire que le monde du reproche peut rien. C'est autre chose, on parle de la tchouva. Est-ce que la tchouva est possible?
Il est revenu à la parole du Resh, du commencement.
Si vous voulez. Si vous voulez. Mais il est trop fort.
Moi, je n'ai pas compris.
Vous êtes trop fort. Grâce au chaleur, j'oserais pas. Oui. Je vais vous dire celle qui a l'air la plus anodine. Aochel Misuda Shenomas Piket. Celui qui s'invite et voit qu'il n'y a pas assez à manger, et quand même, il reste pour manger.
C'est une faute très grave.
Ça. C'est ce qui empêche la tchouva.
C'est une faute très grave de rester à manger chez quelqu'un pour moi qu'il n'a pas de cause de.
Il faut croire, parce que ça empêche la tchouva. Encore une fois, ça ne veut pas dire que personne n'a droit à la tchouva. C'est qu'il faudra faire tchouva sur autre chose. Ouais.
Mais comment l'être humain peut arriver à casser quand il est prisonnier dans un dans les enchaînements qu'ont provoqué son action, quand il est prisonnier d'une répétition d'un système qui s'auto-alimente, comment il peut arriver à casser? C'est vrai qu'on a du mal, on a du mal à comprendre.
Alors je veux dire comment? C'est très simple. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement pervertis que lorsque vous leur dites que ce qu'ils pensent c'est mal, ils ne comprennent même plus. Il y en a beaucoup, non? Souvent, comme c'est dans une chose ou une petite chose, ça peut ne pas être trop grave. Quand c'est dans des choses graves, voilà. Donc c'est très facile, au contraire. C'est pas que c'est difficile, c'est très facile. Ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels la première avéra elle est dure, la deuxième elle est plus
facile.
Et la troisième c'est déjà éther, comme ça les agrades. Là, si tu l'as éther, ça devient son propre système. Pour vouloir en sortir et écouter, il faut déjà un gros effort. Donc tout le monde n'est pas capable sans qu'on le bouge.
Mais celui qui sait que...
On parle de ceux qui savent. C'est ça que je vous ai dit, qu'il y a des gens qui ont des questions et un autre qui ont des réponses. Celui qui a des réponses, c'est parce qu'il veut déstabiliser, parce qu'il sait que c'est une question. Et que ça peut déstabiliser. Mais l'autre, il a la même question à côté. On avait une fois, mais regardez la différence. Il y a un monsieur qui s'appelait Acher.
Oui.
La Gemara dans le traité de Kiddushin, elle dit Elisha ben Abuya. Pourquoi est-ce qu'il est devenu autre? C'est-à-dire qu'il est devenu renégat. Il a vu un homme qui écoutait son père et qui est monté sur une échelle pour faire la mitzvah de Shidua Haken, c'est-à-dire pour prendre les œufs, de renvoyer la mère. Dans cette mitzvah et dans la mitzvah de Kibbutz, il y a marqué le man yirbu yamecha ou le man yarichon yamecha. Ça prolonge la vie. Et il est mort sur le coup, il est tombé à l'échelle, il est mort. La Gemara, elle dit, me pache tout dans le traité de Shabbat, au nom de Rabbi Yochanan, que c'est normal que quelqu'un, il est dit, il sourit, mais c'est quoi s'il sourit? C'est que il soit frappé au moment où il va les devoir mitzvah. C'est-à-dire quoi? La Gemara trouve normal que si tu vas avoir un petit peu de srar dans la vie et que tu vois que le bon Dieu s'intéresse à toi, qu'au moment où tu vas faire une mitzvah, il t'arrive. Parce que si tout va bien,
c'est facile.
C'est trop facile. C'est que le bon Dieu se désintéresse et donc tu n'auras pas un grand srar. Comme ça, il pensait à Rabbi Yochanan. Acher, lui, ça lui a cassé toute la Emouna. Alors, comment une chose où Rabbi Yochanan aurait dit, tu as vu, il est mort de ça. Et voilà. Siman, il y a un grand idéal là-dedans.
Mais c'est lui.
Et que tu dois pouvoir vivre avec une question. La même chose que celui qui est Oler Rivar Mitzvah. Il a voulu donner tout l'argent à Tzedaka et on est venu, on l'a tout pillé. Ah, là, tu deviens quelqu'un d'intéressant. Parce que ça veut dire que le monde veut que tu te poses des questions. Mais si tu es comme Acher et que tu casses tout de suite. Donc vous voyez bien que quelqu'un, il peut prendre la valeur des choses selon les questions qu'il se pose, alors que l'autre prend la nullité de la chose selon la même question qu'il se pose. Makara, c'est que pour l'un c'est une question et pour l'autre c'est une réponse. Ouais. À partir d'où?
Mais disons, alors je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du moi, de l'information du moi, etc. En tout cas, le moi, vous dites, le moi, il est perverti.
Non, on peut le pervertir.
Oui, on peut. Dans l'hypothèse, le moi était perverti. On peut le pervertir. Il est perverti. À ce moment-là.
On va dire qu'il est plus absolu. Dans les termes des sphères, il y a marqué que c'est plus absolu.
Alors, à ce moment-là, Teshuva est difficile.
Elle est impossible.
Impossible. Alors, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que si le moi n'est pas perverti, pourquoi est-ce que j'ai besoin de Teshuva? Premièrement, c'est la question. Bon. Alors, deuxièmement. Alors, peut-être une réponse qui n'est pas ma réponse, qui apparaît en filigrane de ce que vous avez dit, je vous demande une confirmation. c'est que vous avez rattaché le moi à une sorte, on va employer un mot freudien, sur moi, enfin quelque chose qui est au-dessus du moi, et qui sert de référence au moi. Quelque chose qui semble être incontestable, inébranlable et inné. À savoir qu'on l'a, on l'a, on l'a acquis. On n'a pas besoin de sens, on n'a besoin de rien du tout, on l'a. Et à ce moment-là, vous semblez dire que...
Mais attention, qu'on peut pervertir aussi avec le temps.
Oui, à ce moment-là, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de référence.
On peut retrouver.
De ce que vous avez dit, la teshuva devient impossible, voilà. Parce que rien n'est possible. Mais en tout cas, dans la mesure où cette référence reste incontestable, à ce moment-là, vous semblez dire que le moi va finalement, la teshuva devient impossible si le moi est... Le moi perverti nécessite une teshuva, mais elle est impossible du fait que le moi est perverti. Après, la réponse est peut-être simplement que la teshuva n'est que le fait de retrouver en soi ce qui est incontestable, inné, acquis, que j'appellerai en guillemets sur moi, et à ce moment-là, de savoir se rattacher.
Mais comment on va faire si seulement on est perverti?
Et ben, c'est ça la question.
C'est la raison pour laquelle on avait dit il y a deux possibilités. D'abord, c'est ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa, Ashivenu Hashem Elecha Benashuva. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une grande volonté, lorsqu'on sait qu'on est perverti, et qu'on sait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et qu'il y a une grande volonté de s'en sortir, il y a une certaine Ishmaïa. Qui fait que, avec moi, mes propres forces, je ne serai jamais arrivé, mais le bon Dieu va me mettre dans des situations où je ne vais pas m'en sortir. Première chose. Mais il y a des fois où même ça, le bon Dieu ne fera pas. Pourquoi? Alors là, il faut répondre à votre première question. La première question, elle était très simple. C'est que si je suis tellement perverti, d'où j'ai envie de faire tout? Ah, il faut savoir qu'on peut avoir la conscience d'être perverti parce que le chet est au niveau du maasé, quelquefois, et il n'est pas toujours au niveau de la perversion. Par exemple, je peux avoir des idées très justes, mais ne pas arriver à les mettre en pratique. C'est-à-dire que chaque fois que ça devient le maasé, j'en suis incapable. Aïlokim bara et adam yachar, vem bikshu cheshbonot rabim, je suis un être faible, mais au niveau du moi,
intact.
Ça ne peut pas durer longtemps, très longtemps. Ou en tout cas, il peut avoir... Parce que, attention, tout va toujours dans le temps et dans les différentes dimensions. Je ne suis pas le même vis-à-vis de tel et tel acte, de telle et telle attitude, et il y a multitude de... Et au Kippour, c'est pas, on ne fait pas face à un problème, on fait face à 1000 problèmes. Donc il peut avoir des attitudes où, par rapport à une, je suis tout à fait réaliste de ce que je suis, et je veux faire, tu vois, parce qu'au niveau du maasé, je ne peux pas m'en sortir. Ou alors je sais même que je suis perverti moi-même et je m'en rends compte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore totalement perverti. Et lorsque je serai totalement, ne serait-ce que pour une chose, je ne pourrai plus faire pour cette chose-là parce que j'aurais trouvé ce que j'appelle le terroir. J'aurais plus de questions, j'aurais déjà répondu, j'ai dit c'est faux, je ne suis plus d'accord. Ah, tu n'es plus d'accord, on a tout terminé. Tu ne veux même plus faire, tu vois. Et même si tu veux parce que tu penses que, mais tu ne peux plus trouver la ressource. On va essayer d'expliquer pourquoi. Ce Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, il avait fait des fautes et des fautes et des fautes et des fautes. Et à un moment, il en a eu assez. Donc il était dégagé. Et bien, il n'est pas arrivé à trouver des structures mentales pour vivre autrement. Ça voudrait dire que quoi? Je ne parle pas de celui qui a fait des fautes vis-à-vis des autres. Parce que là, il est complètement fichu. On ne peut pas faire, tu vois, j'ai tué Pierre et Paul. Je ne vois pas en quoi, là, tu vois, ça pourra changer grand-chose. Et tu ne vas pas les remettre en vie. Il y a des choses qui sont irrévélables, on comprend pourquoi, là, tu vois. C'est trop facile de dire, alors, Slicha, Mokila, on y va. Mais même lorsque tu as fait des dégâts par rapport à toi-même, il est possible que quoi, qu'on se rende compte qu'on soit devenu un invalide. Donc lui-même, il a compris que quoi, il a tellement pleuré pour pouvoir faire, tu vois, qu'il en est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas vu de possibilité de vivre autrement en étant le même, puisque, fin de compte, il doit être le même. Il ne peut plus. Alors, je pourrais très bien comprendre que j'ai la conscience de le faire, mais j'ai tellement perverti ce que j'appelle moi le moi, ça n'est tellement pas absolu. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui s'est pourri vraiment, voilà, hein, je ne sais pas moi, Papon, Bousquier, hein. Vous croyez vraiment qu'après en avoir tué des centaines de mille, on peut dire j'étends? Mais on doit se cacher toute sa vie dans un trou. Et si on n'a pas le courage de se cacher dans un trou, on sera obligé de dire qu'on n'a pas eu tant. Parce que la vie qu'on aura, elle est tellement pourrie. Parce que si quelqu'un d'autre avait fait ça, on aurait tellement dit qu'il n'a même plus droit à rien, qu'on ne saurait même plus vivre. Alors comment on va trouver la tour? Comprenez? As-tu dit, mais oui, si tu as le ressent. Mais oui, en vérité, j'aurais le ressent pour le faire. Mais il est possible qu'à mes propres yeux, je ne puisse même plus. Parce que je suis tellement plus honorable que j'arrive pas à l'oublier moi-même. Donc on ne peut pas demander ça à quelqu'un. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de soi éventuellement. Alors nous, on le comprend facilement, bien Adam Lachavero. Pourquoi ? Parce que l'on vit dans le Lama Maasé. Et comme on l'a dit la dernière fois, les choses qui sont gâchemies, on les comprend. Alors que le Rouhani, on n'est pas toujours au courant. Donc puisqu'on vit dans ce Lama Maasé, nous, on comprend que vis-à-vis de l'autre, la chose est difficile. On ne comprend pas vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on se dit, allez, il fait le bâtard, allez, vous comprenez ? Il n'y a pas de gens qui viennent chez moi et disent, bon, vous, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rambam ? Il dit, Rambam, il dit comme ça, tu dis, allez. Et ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça ? Parce qu'il y a un système. C'est pas en poussant l'autre, on dit, allez, ça tu peux le faire, Ben Adam Khaviro. C'est-à-dire que Ben Adam Lamakom, on est obligé de dire qu'il y a des choses qui sont fixes, parce qu'avec ça, on a créé le monde. C'est des repères qui sont entièrement fixes. Donc c'est possible que quelqu'un ne puisse pas se reconnaître en étant celui qui a fait le choix. Nous, on le conçoit Ben Adam Lachavero, mais on conçoit que ce soit Ben Adam Lachavero aussi. Et c'est ça l'histoire de la Gemara par Rabbi Elazar ben Udaya. Parce que lui, il n'avait pas fait d'Avera Ben Adam Lachavero, il a fait Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire que c'est une conscience de la Kedusha qui est très forte et qui fait qu'il avait un tel sens de vivre en dehors de la Kedusha qu'il ne se voyait pas lui vivre en Kedusha. Donc, on a l'expérience de quelqu'un. Donc, c'est ça, ça répond à votre question en première. Pourquoi je veux faire tu vois, parce que je suis pourri ? Mais non, c'est vrai que je suis pourri. C'est vrai que je suis pourri. Et je veux absolument faire tu vois, mais je n'ai plus le ressort de me reconstituer ce moi. Je ne peux pas le reconstituer. En vérité, on devrait poser que peut-être c'est mieux qu'il n'arrive pas à le reconstituer. Parce que ce sera un être hybride, difficile à vivre. Et la qualité de la vie, elle serait tellement pourrie qu'on en passe à un homme, peut-être c'est mieux qu'il meurt. Par exemple, imaginez-vous un Eichmann sans, si on n'est pas tué. Mais quelle est la qualité de vie que vous lui proposez à ce type ?
La qualité de vie pour quelqu'un comme nous, oui. Mais lui, quand
non,
il...
tellement pourri que ça va mieux qu'il meurt. Alors il est possible que nous aussi, vis-à-vis de nous-mêmes, si on sent que la vera est tellement grande, que la qualité de vie qu'on se reconnaît, elle est tellement pourrie, que peut-être c'est mieux
mais
de changer.
Il y a un tel niveau d'absence de conscience.
Parce que là-bas, c'est Ben Adam Lachavero, c'est facile à imaginer. Mais on doit pouvoir imaginer que Ben Adam Lamakom soit la même chose. Nous, on n'imagine pas parce qu'on se dit, ah, les bandits, on s'arrange. Mais si on était sérieux et qu'on mettait les fautes de Ben Adam Lamakom au même niveau que Ben Adam Lachavero, on comprendrait qu'il y a des choses où soi-même, on ne peut plus se baratiner. Je vais faire tchouva. C'est pas vrai. Ou tu peux faire tchouva, mais comment tu vas revivre autrement ? Impossible. Vous comprenez ?
Il aura chaque fois qu'il n'a pas fait tchouva.
C'est possible que le. Il y a des choses qu'on ne doit pas dépasser. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. Et qu'instinctivement, un homme, il doit avoir le sens de la tchouva en lui, qui fait quelque chose qui ne se permettra jamais. Au moins la tsoura, qui n'est pas perdue, ce qu'on appelle la tsoura. La tsoura de l'homme, il ne doit pas la perdre. La tsoura, ça veut dire la perception de l'humain qu'il a de lui-même. On ne doit pas devenir un vrai chien. Si on est un vrai chien, on ne peut jamais revenir en homme. Ouais. Ça, c'est une question d'une maladie, c'est un autre problème. On ne peut pas juger un malade. Ça, c'est autre chose, c'est un problème de maladie. Ça, c'est une question de maladie. Non, lui, il est mort de tristesse. La dépression, c'est une maladie. La dépression, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas, c'est pas quelqu'un qui est triste. Et les gens qui sont très tristes, ils fonctionnent très bien.
Donc on peut mourir de tristesse sur la dépression ?
Absolument. La dépression, c'est une maladie. C'est quelque chose qui vous empêche de fonctionner. La tristesse, ça vous empêche pas de fonctionner. Ah, ça ne veut pas dire que c'est mal fonctionné. Je ne sais pas si on est obligé. On est obligé de juger tout le monde et de savoir ce qui se passe chez eux. Ok.
Exactement.
Moi je dis mais qu'ils sont chez la lune, non? Oui, parce qu'on sait très bien que c'est les choses qui nous dépassent, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas, ça a vraiment une importance. Si on se donne cette importance-là, c'est que on veut la réponse, on ne veut pas la question. Mais ça ne doit pas provoquer un problème ni de réponse, on doit pouvoir vivre tranquillement. Mais on doit pouvoir vivre sans dire de réponse.
Je me demande s'il y a cours la prochaine fois, dans 15 jours.
Il y a 15 jours.
Dans 15 jours, hein. Le cours.
Pour Adam Arichon, ils sont faits fonctionner ses sens par rapport à leur tacage bord qu'il a fauté.
Adam Arichon a fauté sur autre chose. On va dire que la faute, elle était. Parce que lui a voulu être l'équivalent.
Soit il est chez lui de l'autre côté, et là. La
mitzvah. Il a voulu vivre avec le libre arbitre. Avant, il avait le Tov en dehors de lui. Le Ra en dehors. Lui, il a voulu avoir le Ra et le Tov
à l'intérieur.
Parce que chacun de temps, c'est comme ça. C'est ça qui a marqué qu'il a voulu être l'équivalent de Dieu en faisant la faute. Et c'est là où il s'est fait avoir. C'est autre chose, c'est rien à voir. Adam Arichon, c'est pas qu'il n'a pas été bochur Bachaim, c'est encore moins. Adam Arichon, il a voulu éprouver le besoin du mal comme celui du bien. C'est ça qu'il a fait la faute. Et à la salle, je serais plus grand. Oui, mais t'as fait la faute. Quand t'as fait la faute, c'est un truc à vous. Mais pour y arriver sans la faute, ça, c'est impossible. C'est qu'on est plus petit. Connaître le mal, si au niveau de la connaissance on est plus grand, au niveau de l'homme on est plus petit.
C'est ça.
Parce qu'on est perverti.
Oui, mais est-ce que le fait de, une fois après la tchouva, si après la tchouva, c'est pareil, le titre, est-ce qu'on ne devient pas plus grand? On ne se lève pas une madriga plus grande.
C'est ma croquette, c'est ma croquette dans les mains avant ma croquette. Entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Il y en a qui disent que les balais de choix sont plus que les années qui vont mourir. Il y en a qui disent que les balais de choix sont plus que les choix.
Mais moi, je ne comprends pas seulement les balais de choix. Je parle.
Non, mais vous prévenir avant quand vous faites des cours comme ça, monsieur. Hein? Vous prévenir avant quand on arrive.
Oui, mais c'est vrai que vous êtes très tenu.
Moi, je vais vous demander une question. Mais est-ce
qu'on peut faire des questions? Je vais vous demander de fouiller.
Moi, j'arrive en avion, à Strasbourg.
On n'arrive pas à répondre à minute.
Moi, ce n'est pas compréhensible.
C'est d'un niveau très très haut.
J'aurais annulé des
attaques. J'ai les traductions, moi, que je peux pas, je comprends pas.
Et moi, en hébreu, qui l'ai traduit en français.
Voilà, c'est les traductions.
Si vous oubliez le néfèche, vous êtes automatique.
Voilà, mais est-ce qu'on peut retrouver? Comme ça, on peut tout retrouver comme ça. C'est le problème là, tu vois. On peut tout retrouver.
Il faut oublier le néfèche. Si vous sortez le néfèche, vous faites une tchouva automatique.
Oui, mais comment on peut faire?
Quand il y a les 500,
ça veut dire qui matériel. Voilà, c'est qu'il faut changer de monde.
Exactement.
Mais c'est pas possible. Parce qu'on a
tellement perdu un truc qu'on n'a pas changé de néfèche.
Donc, il est obligé de mourir.
Donc, on est obligé de mourir.
C'est comme ça qu'on change de néfèche.
Donc, c'est le problème de néfèche.
C'est
le corps. La matérialité.
Il arrive quand même avec les obstacles, il y en a.